Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Lochard, la directrice du développement durable de Guerlain, la célèbre maison de luxe. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Moi aussi, Alice.
Puis je te retrouve après ton intervention chez Printemps. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur cette belle maison, sur tes engagements, parce que déjà, tu es une femme engagée. Raconte-moi un petit peu ton parcours.
Ça fait plus de 20 ans, effectivement, que je travaille sur le sujet, qui est un sujet vaste. Ça veut à la fois tout dire et rien dire, hein, qu'on travaille dans le développement durable. Mais j'ai effectivement commencé ma carrière dans la finance socialement responsable, chez HSBC. Et j'ai eu 7 ans. Et notamment en participant aux premières formes de dialogue actionnarial actif.
Donc, c'était ton premier poste déjà.
Mon premier job.
Donc, tu as toujours été engagée, en fait.
Oui. J'ai eu cette chance d'être née dans une famille où l'engagement était chevillé au corps. Et par conséquent, c'était presque pas une option. Donc, j'ai fait une petite crise d'adolescence en me disant je ne ferai jamais comme mes parents.
Donc, je finance, mais quand même, finalement.
Mais tu vois, j'ai quand même commencé dans la finance durable. Et après, j'ai très vite rejoint le WWF. Première expérience, donc pendant 8 ans.
Et je crois que tu as écrit un livre aussi.
Exactement. Juste après le WWF, où j'étais en charge des partenariats avec les entreprises et ensuite j'ai terminé directrice de la philanthropie, j'avais un challenge, c'est que je n'aime pas qu'on me résiste. Et le secteur du luxe était le seul des secteurs d'activité que le PANDA, le World Wide Fund for Planet, n'arrivait pas à embarquer dans sa politique de marcher main dans la main pour plus de vertu dans le milieu économique. Et j'avais donc cette interrogation. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et j'ai donc écrit un livre sur le sujet en quittant le WWF, qui a juste 10 ans, ce livre.
Et ensuite, comment s'est arrivé Guerlain?
Alors, j'ai écrit ce livre et j'ai créé ma petite société de conseil sur le sujet de l'alliance du luxe et du développement durable. En revanche, mes premiers clients ont été des ONG et notamment Agronomes et Vétérinaires sans frontières, avec association avec laquelle j'ai créé la première filière de cachemire durable en Mongolie, et mes interlocuteurs par conséquent, puisque je tenais absolument à pouvoir vendre cette filière aux acteurs du luxe, et bien étaient effectivement des maisons et notamment des maisons du groupe LVMH. Et Guerlain a été également l'un de mes premiers clients il y a à peu près 7 ans. Voilà.
Et tu as rejoint la maison parce qu'elle t'a séduite par ses engagements, par son côté. Parce qu'apparemment, Guerlain, c'est quand même la maison qui est pionnière parmi les maisons de luxe, même si c'est quand même des maisons qui ont un peu de retard sur le secteur, on va pas se mentir. C'est ce qui t'a séduit chez Guerlain, justement, les enjeux, mais en même temps, le côté peut-être plus volontariste de la maison.
Exactement, le côté volontariste, ce n'était pas un hasard. S'il y a 7 ans, on s'est retrouvés autour de valeurs communes et surtout d'une envie d'accélérer sur la politique et la démarche de développement durable qui avait été initiée. En réalité, on célébrera l'an prochain les 15 ans de la démarche de développement durable de Guerlain. Donc, tu vois, ce n'est pas tant qu'il y ait un retard perçu, manifeste, quelle que soit la façon dont tu peux le qualifier dans le luxe. C'est surtout, parce que je fais un petit aparté, mais la direction du développement durable, de l'environnement plus précisément chez LVMH, existe depuis bientôt 30 ans. Sommet de la Terre de Rio, 92, création de la direction environnement chez LVMH. Donc, tu vois, c'est pas un retard, c'est une pudeur à communiquer.
D'accord. Donc, elles agissaient, mais elles n'en parlaient pas.
Exactement. La pudeur était encore une fois de mise. Il n'y avait pas cette volonté à surcommuniquer. Et d'ailleurs, c'est plutôt sain parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de cas avérés de greenwashing jusqu'à présent dans le secteur au sens large du luxe. Et moi, j'aime même à dire qu'au contraire, on a plutôt fait du green hiding. C'est-à-dire qu'on a caché ce qu'on faisait. Et Guerlain était par conséquent l'une des maisons qui avait la démarche consolidée la plus ancienne. Et même
et
s'il y a 7 ans...
pas du tout.
Ah non, il y a 7 ans, pas du tout. Non. C'est même moi qui étais allée les voir. Ils ont dit, donc, j'ai su que, j'ai entendu dire que. Il me semble, dans le rapport environnement du groupe, que j'ai vu qu'il y avait des initiatives très intéressantes que vous avez déjà amorcées sur le packaging, etc. Est-ce que vous avez la volonté d'aller plus loin, de dévoiler? Et en l'occurrence, la rencontre s'était faite sur l'écriture du premier rapport de développement durable de Guerlain. Et très sincèrement, Alice, c'est une démarche volontariste. Mmh. Il n'y avait aucune obligation, il n'y en a d'ailleurs toujours pas, pour les maisons qui ne sont pas cotées, puis qui appartiennent donc au groupe LVMH en l'occurrence. Quand tu n'es pas une société cotée, tu n'as pas cette obligation légale, réglementaire, de faire paraître ton rapport de développement durable au sens large, social et environnemental. Mais c'était le souhait de la présidence de se dire, on a quand même une démarche qui allait, tu vois, ça faisait 7 ans qu'elle avait été initiée. Il faut ne serait-ce qu'en interne la faire plus connaître. Donc, c'était aussi une façon de poser des mots, des KPIs aussi, des fameux indicateurs, hein, de définir la trajectoire et qu'elle soit sue, connue de tous et que tout le monde soit aligné. Donc voilà, ça avait cette vertu, mais la première cible, la première audience qui était visée, c'était l'interne. Tu vois, c'était même pas
mais
pour
c'est plutôt
œuvrer
sain
à l'externe.
Parce que c'est les meilleurs ambassadeurs d'une politique de développement durable, c'est les salariés. S'ils ne croient pas en la politique de leur maison, bah c'est foutu hein, pour la maison même, je pense.
Ah bah, et, je suis complètement d'accord avec toi. On doit commencer par, par balayer devant
vivre.
Sa porte et
exactement.
Surtout engager ses salariés avec soi.
Et cette politique, j'ai vu qu'elle reposait sur 4 piliers qui sont l'innovation durable.
La préservation de la biodiversité.
La biodiversité avec les abeilles. Ah, ça, tu vas vraiment en parler parce que je suis assez fan de ce programme-là. Et puis les deux autres,
c'est le climat et
l'engagement sociétal. Et c'est vrai que beaucoup de consommateurs, alors je ne sais pas si c'est les consommateurs du luxe, d'ailleurs s'ils se posent cette question, ça tu vas peut-être aussi m'aiguiller là-dessus. Mais beaucoup de consommateurs sont un peu méfiants vis-à-vis de ces grandes marques-là en disant, mais de toute façon, c'est le luxe pollue par son essence même. Et toi, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là?
Bien, le luxe pollue au final en volume, parce qu'il faut toujours mettre des metrics, hein, avoir des fameux indicateurs sur tout ce qu'on affirme. Il y a 10 ans, j'ai réalisé qu'en réalité, quand tu consolides toutes les activités du luxe, même si, tu vois, ces temps-ci, quand paraissent les revenus annuels, les chiffres d'affaires, ça paraît colossal. Un groupe comme LVMH, un groupe comme tous les autres groupes de luxe, etc., c'est tout à fait tout petit par rapport à certaines autres industries. Mmh. Donc, en réalité, en impact, en volume net, non, le luxe ne pollue pas comme la fast fashion, par exemple, si on doit opposer en tous les cas des activités qui se connaissent.
Ce que nous disait d'ailleurs Bénédicte Épinay du comité Colbert. Elle me dit finalement, le luxe, c'est du bon sens. Nous, on produit moins, on produit mieux, donc c'est la qualité.
Ah, mais complètement. En revanche, il y a un impact qui, lui, ne l'est pas, c'est le fameux impact aspirationnel. Moi, ce que j'aime appeler, tu sais, on parle beaucoup dans ton émission de footprint, d'empreinte environnementale, mais c'est le fameux brain print. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crées comme imaginaire chez ton public? Et je ne parle pas seulement de tes clients. À quel point tu es aspirationnel pour les jeunes générations quand tu es le luxe? Tu as un pouvoir publicitaire monstrueux, les images sont quand même partout. Et quel monde et quel imaginaire tu donnes à voir? Et lorsque le luxe lance une tendance, on le sait, le luxe lance des tendances, initie des tendances, tu entraîne dans ton sillage de nombreux autres secteurs d'activité ou d'autres marques qui sont, elles, mass market. Donc, c'est cette fameuse responsabilité d'effet d'entraînement, ce qu'on appelle en anglais le spillover effect, c'est pas très joli, mais c'est comment tu te répands dans la société et par conséquent, quelle est ta responsabilité dans les envies que tu crées, dans
la désirabilité. D'où l'importance de communiquer.
Exactement.
Comment tu arrives à incarner les engagements?
L'incarnation, elle doit aussi se faire par les produits. C'est-à-dire que si tes produits n'endorsent pas, n'endossent pas ton engagement, tu n'as pas compris
d'où
ta feuille de route.
D'où l'éco-conception.
Dans le pilier innovation durable qui est le nôtre, tel qu'on l'a défini, mais en réalité, toutes les entreprises aujourd'hui mettent sur le marché un produit ou un service, et c'est là que se passe, c'est le sujet nodal. C'est qu'est-ce que tu mets comme produit sur le marché, et en l'occurrence, quelle est la transformation de ton offre si tu as pris en charge ta transformation écologique et sociétale. Et donc, pour nous, la priorité, c'est aujourd'hui de créer des innovations qui soient à la fois plus naturelles, plus clean. Oui, c'était un gros mot, il y a peu de temps. Mais voilà, plus clean.
Tout en gardant le même parfum, justement.
Alors, Je vais t'expliquer, parce que ça existe parfois des reformulations assez drastiques. Donc, des formules plus naturelles, plus clean, dans des packagings à la fois moins volumineux,
Tout le problème du packaging.
Ouais, plus light, plus léger.
Surtout que c'est du verre, vous.
Alors, c'est du verre, en majorité. C'est pour ça qu'on a moins la problématique du plastique.
C'est déjà pas très luxueux, le plastique, objectivement.
On en a dans le make-up, hein.
D'accord.
Tout à fait sincère, où tu en as dans certains mécanismes. Donc, si
que
ça reste un sujet...
vous n'avez pas encore réussi à supprimer, du coup, celui-là.
Alors, on a pris un engagement, en tous les cas, d'ici 2026, de ne plus avoir de plastique fossile. C'est bientôt, mais on y arrivera. Plastique fossile dans nos créations. Mais en revanche, tu as les alternatives du plastique biosourcé ou carrément de nouveaux matériaux. On cherche à, en tous les cas, les composants, les matériaux de remplacement. Et notre troisième axe, c'est-à-dire éco-formulation, éco-packaging, de façon transparente. C'est-à-dire que toutes ces applications type Yuka, Clean Beauty, qui sont nées, qui ont encouragé tout le segment de la cosmétique à accélérer sur la révélation des ingrédients qui sont présents dans nos formules, et puis surtout à substituer les ingrédients dits controversés, eh bien nous, on a pris le devant il y a 4 ans en lançant notre application. Alors, c'est une application, elle existe en application, mais c'est surtout une plateforme de transparence et de traçabilité que tu as soit sur ton mobile, soit depuis ton site internet accessible sur la fiche produit de la création Guerlain, du produit Guerlain, que ce soit du make-up, du parfum,
tous
du
les
soin.
Produits, on peut les...
Alors, on a fait quelque chose, si tu veux, le luxe a toujours cette prérogative et ce qui constitue presque un frein en matière de développement durable, de dire « je dois être absolument parfait ». Ce qui a longtemps freiné, comme tu peux l'imaginer, le programme en matière de DD. Je dois être parfait, je suis exemplaire, je ne suis pas transparent du tout, puisque le secret était érigé comme un des principes fondateurs du luxe, ne l'oublie pas.
Le mystère autour d'une marque de luxe, bien sûr,
donc c'est cultiver pas, le mystère. Tu vois, j'en reviens à ce que tu me disais, comme tu disais, mais le luxe n'a rien. Non, le luxe faisait, mais le luxe ne faisait pas savoir.
Oui, c'est vrai.
Puisque ça faisait partie intégrante de cet état
ADN,
d'esprit.
C'était l'ADN du luxe, en fait.
Et donc, nous, en dévoilant cette plateforme de transparence et de traçabilité, on s'est dit que c'était un énorme travail, dès début 2019, quand on l'a dévoilé. Et mince, on pourra ne dévoiler cette année, pour son existence, sa sortie, si on le dévoile au public, que la catégorie soins. Et bien, on prend le risque d'expliquer à nos clients que c'est un processus itératif, que dans 2 ans, on aura chargé tout le catalogue du make-up et qu'on terminera, et on a terminé là récemment, de charger aussi l'intégralité du portefeuille parfum. Donc, tu vois, aujourd'hui, sur Be Respect, tu as quasiment l'intégralité
et
du portefeuille.
Et pourquoi, en fait, tu n'arrives pas aujourd'hui, si un auditeur était là, je pense qu'il poserait la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tous les avoir? C'est parce que, pour le moment, la traçabilité n'a pas été...
Il y a des leviers à poser.
Il y a des leviers.
Mais non, mais les leviers, en fait, c'était tout simplement... ils ne vont pas m'aimer au parfum, mais c'est vrai que... Quand on l'a fait sur le soin, c'est très facile. C'est énormément de travail. C'est 220 collaborateurs dessus pour donner tel fournisseur. Parce que nous, on ne dévoile pas juste les ingrédients.
Titan, hein. En fait,
dévoiler les ingrédients, ce n'est pas difficile. Non, nous, on dévoile aussi le nom du fournisseur, le nom du fournisseur de pack, le nom de la provenance de tel ou tel ingrédient.
Donc, parfois, quand tu as des... aussi demander leur validation.
Bien sûr, c'est monstrueux. Et puis, c'est nouveau dans le secteur du luxe, se dévoiler comme ça. Donc, il faut des autorisations. Et... un fournisseur de rang 1 que tu connais bien, il n'y a pas de problème. Mais tu réalises aussi que ta supply chain, tu as des fournisseurs de rang 2, de rang 3, il faut aller tous les chercher. Donc, c'est très bien, c'est une énorme vertu. C'est que tu as 100% de la traçabilité.
Oui, d'accord, je
comprends. Vois. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel se penchent énormément d'autres maisons et nous, on l'a anticipé. On l'a anticipé, mais encore une fois, tu vois, c'était pas direct et... automatique. Il fallait travailler
avec
nos partenaires.
Mais c'est bien parce que du coup, vous allez bousculer aussi le secteur et je pense que c'est la preuve par l'exemple. En montrant que ça marche et que ça ne nuit en aucun cas à l'image de Guerlain, voire même, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que demande le consommateur, c'est de la transparence, de la traçabilité. Et le mystère des marques de luxe peut être cultivé différemment par l'incarnation, par l'effet waouh, mais tout en montrant, en affichant ce qu'ils font vraiment.
Exactement. Et pourquoi je te parlais de l'équipe parfum, c'est parce que quand on a lancé tout ça, on n'a quand même pas eu en tête que quand tu dévoiles tous les ingrédients, parce qu'on est très précis dans les critères qui sont donc présents sur Be Respect, tu dévoiles quand même ce qu'on appelle ta communelle, c'est-à-dire ta recette magique.
Oui, mais c'est vrai, bah oui.
C'est pas facile.
Ah, mais oui.
Comme... Donc, on s'est appliqué, bon, voilà, des règles.
Ah, non, mais c'est vrai.
Parfum, mais finalement, voilà, oui. C'est pour ça que t'es dernier.
Là, oui, mais je comprends. Mais j'adore comprendre pourquoi il y a des...
Dans le concentré, et dans le concentré.
Bah oui, c'est une recette.
Sinon, tu sais, c'est beaucoup d'eau et beaucoup d'alcool, en réalité.
Oui, oui, mais voilà ma recette. Et du coup, tout le monde peut faire du plagiat d'un parfum.
Mais la vertu de tout ça, c'est aussi de pouvoir mettre en avant des sujets que dans notre, ce qu'on appelle le 360 marketing et communication, à mon goût, moi, on n'aborde pas assez. C'est-à-dire que quand tu vas...
Mais ça, faut le dire.
Ben oui, mais quand tu vas regarder sur Shalimar, sur Be Respect, qui est notre plateforme de transparence, et ben tu découvres que l'alcool de Shalimar millésimé vanille, que nous avons sorti en octobre, est formulé à partir d'alcool de blé bio. Mais on est toujours encore trop, je trouve...
Mais c'est tellement compliqué parce qu'aujourd'hui... Quand on en parle trop, on peut se faire tacler de greenwashing, de impact washing. Maintenant, il y a plein de choses. Donc, je comprends. Hein. Et puis, la retenue des marques. De toute façon, les marques de luxe communiquent peu déjà de base. Donc, il y a toute cette retenue. Et si on faisait un petit focus sur les abeilles, parce que sinon, on pourrait parler des heures ensemble. Mais c'est un désengagement de la maison qui, moi, me marque parce que je trouve qu'il sort du lot. Et c'est aussi ce qui caractérise Guerlain. C'est ce programme-là pour la préservation de la biodiversité.
Oui, alors Guerlain, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas en tête, l'emblème de Guerlain, pas depuis sa fondation, mais depuis 1853 et donc bientôt 170 ans, notre emblème, c'est l'abeille, à la faveur en fait du mariage de l'impératrice Eugénie avec Napoléon III.
Et au-delà de l'emblème, c'est même
c'est l'emblème impérial.
Mais c'est même elle qui a inspiré, je crois, la conception de certains parfums. Non,
exactement. Donc, en fait, c'est depuis que l'emblème s'est posé sur ce flacon qui était le cadeau de mariage de Napoléon III à Eugénie, ce flacon aux abeilles et cette haute colonne impériale, eh bien, l'abeille a inspiré nos créations, mais surtout un sourcing très précieux d'actifs, puisqu'il y a 10 ans, on a créé ce qu'on appelle une franchise. Hein, c'est une marque de soins au sein de la Maison Guerlain qui s'appelle l'Abeille Royale. Et quand il s'est agi de cribler et de choisir un actif très cicatrisant, le miel est un actif très cicatrisant, un ingrédient très cicatrisant. Et on est allé chercher le miel d'une des abeilles les plus pures, les moins hybridées qui soient en France, et c'était le miel d'Ouessant. Et quand on a commencé à travailler sur le miel d'Ouessant, mais pour son bénéfice au départ, à l'origine, originellement, son bénéfice cicatrisant, très fort, eh bien, on s'est dit, mais c'est incroyable, cette abeille de l'île d'Ouessant, c'est une race endémique, elle ne peut pas quitter le continent qui est à 18 km, c'est une abeille super forte. Et on nous a quand même expliqué qu'effectivement, pour lutter contre cette hybridation et cultiver cette pureté, l'association du conservatoire de l'abeille noire d'Ouessant œuvrait sur ce sujet-là, avec beaucoup d'énergie, et il existait également aussi beaucoup d'autres conservatoires sur le territoire. Donc voilà, ça nous a interrogés sur le sort de l'abeille, qui est notre fameux emblème. Et quand on a un emblème comme l'abeille, eh bien, à la fois, c'est très fort, comme tu le disais, tu l'as vu, c'est su, c'est très fort, mais c'est aussi très engageant, c'est une gageure, c'est un sujet de vigilance. C'est-à-dire que ça t'oblige, dans le bon sens du terme, à aller plus loin. On a donc le client et la nature. Voilà, on a deux formes de clients parce qu'on emprunte à la nature. S'il n'y a plus de biodiversité, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, s'il n'y a plus de pollinisation, plus de plantes à parfum. Et puis, de toute façon, de façon générale, je vais être beaucoup moins utilitariste, soyons très clairs, il n'y a plus d'humanité. Donc, on parle de la sécurité alimentaire de l'humanité.
C'est le pilier de notre vie, en fait.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu l'as expliqué, c'est un sujet de vigilance pour nous. C'est une très grande fierté et c'est la raison pour laquelle on a même accéléré nos programmes de préservation de l'abeille et de la biodiversité au sens large, parce que pour nous, déjà, notre responsabilité vraiment propre et directe, c'est de sourcer de façon durable nos plantes à parfum, notre miel, notre orchidée, qui sont nos hero products. On a une quarantaine de filières d'ingrédients naturels. Et pour cela, on travaille avec un organisme indépendant, l'UEBT, Union for Ethical Biotrade, qui est basée à Amsterdam et qui aujourd'hui est la référence la plus exigeante en matière d'assessment, d'audit de ces filières sous des critères de biodiversité, mais aussi sociaux. Et ensuite, on vise la certification de toutes nos filières d'ingrédients naturels d'ici 2026, 100%. Donc, tout ça pour dire que déjà, c'est ça un des piliers de notre politique biodive, mais aussi, il y a toujours l'abeille en fond, puisque tu l'as entendu, on fait un audit aussi nos filières de miel. Petite apiculture de small scale, ce qu'on dit en anglais, c'est des petits apiculteurs artisans. Mais l'abeille, on a accéléré en se disant, voilà, allons plus loin. Il existe depuis quelques années une journée internationale de la cause de l'abeille, c'est le World Bee Day, tous les 20 mai. Cette année, on a dit, allez, on y va. Et on va dédier 1 million d'euros à la cause des abeilles tous les ans. Et dans ces 1 million d'euros, ça encapsule chez Guerlain, 9 partenariats. Jusqu'à l'an passé, on en avait 6 et il y en a 3 additionnels qui sont venus grâce à cette campagne pour sensibiliser, pour embarquer nos clients, notre audience, puisque client ou pas, on a proposé en fait de partager entre le 20 mai, journée des abeilles, et le 22 mai, journée de la biodiversité, donc pendant 3 jours, un hashtag cette année, Save Bees, Guerlain Save Bees. Et pour chaque partage sur Instagram, on reversait 20 euros. Et on a, donc comme ça, on a plafonné cette opération et pour aussi laisser
ça, ça
le
permettait
choix
de la
client,
rendre si, virale, en fait,
ouais,
aussi.
Exactement. Et puis, si le client venait acheter, on ne demande rien au client, on lui dit juste, il y aura X% de votre achat qui est reversé. Et donc, voilà, on arrive à 1 million d'euros et on en est très fiers. Et on continue, on va continuer.
Et tu as une superbe ambassadrice.
Oui, c'est alors...
Mais superbe dans tout ce qu'elle fait, ses engagements.
Sans la nommer, Angelina Jolie. Angelina Jolie était... est la muse d'un de nos fragrances depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on a une chance qui est considérable, c'est qu'on a l'une des femmes les plus engagées au monde. Donc, on la savait quand même déjà engagée sur la cause de la biodiversité. Et donc, c'est assez aisément qu'on lui a proposé, on lui a dit, voilà, nous, on a réussi à connecter les points entre biodiv, abeille et engagement sociétal. On s'est associé à l'UNESCO, qui est moins connu sur le pilier que je vais te citer, qui est le Man and Biosphere. C'est son pilier environnemental à l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, on connaît bien le pilier éducation, mais on connaît un peu moins le pilier environnemental. Et donc, on s'est associé avec l'UNESCO sur ce sujet pour former des femmes à l'apiculture dans les réserves de biosphère de l'UNESCO, qui sont au nombre de plus de 700, dont plus de 120 pays. Et... Angelina donc, est marraine de ce programme, tout particulièrement au sein du Guerlain for Bees Conservation Programme, parce que la cause de la femme, de l'autonomisation des femmes, le fameux empowerment, c'est quelque chose qui l'habite complètement.
Qui est aussi l'un des piliers de la politique de Guerlain.
Oui, c'est la raison pour laquelle, en fait, on lui a dit, voilà, tu vas faire un pont, finalement, entre ce pilier purement préservation de l'abeille et un pilier purement sociétal. C'est l'un de nos piliers et ce programme Women for Bees, il est fait pour toi. Et elle a accepté avec plaisir donc, de l'incarner.
Est-ce que tu penses qu'une marque comme Guerlain, ou plusieurs marques de luxe, je ne sais pas pour qui tu veux prendre la parole, mais peut devenir 100% durable et responsable? Est-ce qu'on peut penser qu'on pourra continuer à consommer du luxe même dans un monde qui va mal? C'est une grosse question, mais c'est une question que je
alors,
me pose.
J'ai envie de te dire que tu me fais une question, tu sais, ça rappelle les questions quand on était en terminale ou quand on était...
Je me pose cette question parce que je pense que consommer peut rendre heureux pour certaines personnes. Tu me parlais du luxe et de l'image et de ce qu'incarne le luxe. Je pense que ça rend des personnes heureuses. C'est une forme de matérialisme. Moi, je n'ai pas ce type d'affect pour de la matière ou autre ou des produits, mais ça rend des gens heureux.
Alors,
donc,
ça rend les gens heureux, parce que moi, je ne peux pas juger de ça, mais en tous les cas, mieux vaut effectivement se faire plaisir avec un très beau produit, même si ce serait complètement déplacé de ma part de dire même si on a peu de moyens. Mais finalement, la cosmétique de luxe, elle offre aussi ce pouvoir.
Et on pourrait penser à un produit plus durable qui pourrait être rechargé, par exemple.
Alors, tu vois, on a un très beau rouge à lèvres qui est rechargeable.
Ouais, ça
s'appelle Rouget.
C'est fou.
Où tu as un miroir intégré. Cette année, on l'a complètement conçu de façon... Alors, c'est pas bien de faire plein d'anglicismes en upcycling, en surcyclage, puisqu'on a récupéré des invendus de l'an passé à la défaveur du Covid. Il nous a resté énormément de quantité de tout le maquillage, quand même, c'est une catégorie qui a énormément souffert l'an passé. Donc, on a déshabillé le capot de ces rougets, on l'a rhabillé avec une nouvelle collection, et voilà, sur la base d'anciens capots. Et ça, c'est quelque chose, c'est un luxe finalement accessible.
Donc, voilà. Vous, quand c'est comme ça, vous baissez les prix?
Non, je dis juste que accéder à des produits tels que ceux-ci, qui sont très bien conçus, Il y a un vrai savoir-faire dans la main qui les façonne, dans les pigments qui sont sourcés, etc. Tu as du luxe, finalement, je te le disais, grâce à la cosmétique, tu as du luxe, tu achètes une expérience de luxe, finalement assez accessible. Je te parle de ce rouge à lèvres, effectivement, qui coûte 70 euros, mais qui est rechargeable à vie.
C'est ça. Non, mais en fait, maintenant, peut-être que les marques de luxe peuvent tendre vers ce côté serviciel pour allonger la durée de vie de ces produits. Alors, rendre plus accessible à un plus grand nombre.
Tu as raison, parce qu'en réalité, le luxe a toujours eu les services associés, la réparabilité. Là,
je parle d'une
catégorie qui n'est pas la mienne, hein, notamment.
Après, réparer un rouge à lèvres, ça me paraît
compliqué. Dans la maroquinerie, les souliers. Mais rapporter ton écrin, par exemple, on vend aussi. Alors là, c'est ultra premium, hein, c'est la gamme très luxe de Orchidée Impériale. La jarre, le contenant, c'est un pot façonné par Bernardo. Donc, tu le gardes à vie, tu vois. Mais bien sûr, tu peux venir faire renettoyer chez Guerlain, remettre à neuf. Le luxe a toujours proposé la personnalisation.
Le luxe est là pour durer, en fait.
La fameuse, le flacon aux abeilles, la bibotelle qui existe depuis 1853, tu viens chez Guerlain, tu la fais nettoyer, elle est personnalisée, tu as ton cordon, tu as ton seau, tu as la couleur du cordon.
Est-ce qu'on pourrait recharger nos parfums bientôt, tu penses que ça
Alors,
pourrait
être... la bibotelle est rechargeable.
Ah bah voilà.
Depuis toujours,
bon bah,
finalement, même si la prérogative en 1853, c'était pas forcément la transition écologique, soyons très sincères, mais aujourd'hui, il y a une accélération du secteur, c'est du bon sens. Et on a accéléré, nous aussi, sur nos autres gammes de parfums, notamment l'art et la matière que nous venons de réinventer. Et là, ce sont des fragrances exceptionnelles qui portent le nom de matière. Santal, Palo Rosa, Rosa Rosa, Lavande, etc. Angélique Noire, Néroli Outre Noir. Enfin, eh bien, c'est cette collection qui met en avant la matière première. Eh bien, nous l'avons rendue, bien sûr, ressourçable, elle est remplissable, cette bouteille. C'est ce flacon, pardonne-moi, on ne dit pas une bouteille dans la parfumerie. Et par ailleurs, on en a profité, puisque ça a longtemps été un frein dans la catégorie parfum, en tous les cas. Ce qu'on a réussi à faire sur Abeille Royale, c'est d'intégrer du verre recyclé dans notre jarre. Mais là, on a réussi à le faire aussi sur la gamme l'art et la matière. C'est-à-dire que le flacon que tu achètes, qui est ressourçable, il est également en partie fabriqué à partir de verre recyclé.
Et pas à 100%, ce n'est pas encore possible.
Alors, ce n'est pas possible de faire 100%, d'accord, parce qu'il faut toujours, tu sais, du calcin, tu
réincorpores. D'accord, c'est vraiment une question.
Et donc, parfois, quand on te dit, voilà, là, c'est 10% de verre recyclé, c'est 15% de verre recyclé, en parfumerie, c'est déjà beaucoup.
Super.
Mais c'est vrai que pour le client, ça paraît étonnant. Il faut toujours essayer de comprendre et d'en savoir plus sur le process qui se cache
derrière. C'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, encore une fois, et de communiquer. C'est ce que tu as fait très bien dans cet épisode. Et j'étais vraiment ravie, j'ai appris plein de trucs.
J'étais
ravie de te recevoir. J'espère que ça va inspirer tous nos auditeurs et tous ceux qui se posent des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, je pense que même adresser vos questions à Cécile, elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle est très transparente. Donc, merci Cécile.
Merci beaucoup Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.